Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Sensibiliser à la protection du milieu marin, c'est un enjeu majeur pour la biodiversité, que l'on vive au bord de la mer ou pas. Avant d'en parler dans quelques minutes avec Philippe Lenidio du parc naturel marin d'Iroise, situé au Conquet, près de Brest, direction tout d'abord Douarnenez, à la découverte d'Istopia, une association qui œuvre localement pour sensibiliser le grand public aux gestes de protection de la biodiversité marine. C'est un sujet signé Malotison de Radio Évasion, votre radio associative de la région du Fou, dans le Finistère.
Alors ça, c'est la suite qu'a fini...
Oui, parmi toi, à l'endroit.
Qu'a terminé Sylvie.
Voilà, c'est ça. Mais elle est pas là parce qu'elle est malade.
Ah, Brigitte non plus, vous pouvez pas venir.
Aujourd'hui, nous sommes sur le port rue, dans les locaux du festival Temps Fête. Il n'y a pas de bateau à l'horizon, mais un atelier où des bénévoles bricolent avec Amandine Lemoyen, qui a créé l'association Istopia.
Oui, bonjour, je suis Amandine, cofondatrice de l'association et en charge de la coordination de toutes les activités et actions que notre association propose et animatrice aussi des ateliers. L'idée de créer cette association est venue parce que vivant dans cette ville Douarnenez qui est tournée vers la mer et qui est reconnue et aimée pour la baie de Douarnenez, j'avais à cœur de donner la possibilité à d'autres personnes, d'autres habitants notamment, de se saisir de la nécessité de préserver la mer et au sens large l'environnement. Et c'est parfois compliqué en fait quand on nous dresse le constat planétaire que ça va mal, que ici ou là il y a telle ou telle catastrophe naturelle, et souvent en fait la réponse c'est l'impuissance parce que c'est une montagne en fait pour enrayer les problèmes. Et l'envie c'était de lancer cette association pour mobiliser localement les habitants à préserver l'espace autour de nous, l'espace où on vit quotidiennement. Et comme à Douarnenez, les personnes qui vivent ici le disent à chaque fois, il y a un cadre de vie qui est incroyable avec la baie de Douarnenez, un littoral qui est quand même plus ou moins préservé, peu construit. Et c'est un territoire qui est quand même sujet à des problèmes assez forts de pollution, par exemple. Et l'envie, du coup, d'offrir un espace aux habitants d'améliorer et de continuer à respecter autant qu'on peut localement la mer.
Moi, j'ai travaillé sur celui-là.
Tu veux te mettre plus haut ?
Non, mais je peux prendre un fauteuil et puis être à votre hauteur, c'est bon. Et voilà.
Que faire pour aider à préserver la baie de Douarnenez ? Istopia propose beaucoup d'actions pour tous les publics.
Le premier axe, c'est la sensibilisation. Sensibilisation et le développement de l'empathie, de la connaissance de toutes les richesses de la biodiversité marine locale qu'on peut avoir. Faire connaître pour donner envie aux personnes de mieux respecter notre cadre de vie au quotidien. Et donc pour cela, on propose des ateliers hebdomadaires tous les mercredis, après-midi et soir. Et une partie de ces ateliers a pour vocation justement à faire découvrir la faune et la flore locale et les enjeux aussi de préservation localement. Donc on propose des sorties, découvertes de l'estran, des discussions aussi, débats sur l'empathie autour du vivant. On intervient aussi auprès des écoles, pas que des enfants aussi. Nous, on tient à ce que la sensibilisation se fasse aussi auprès des adultes, parce que c'est pas aux jeunes de porter seule la responsabilité de là où on en est aujourd'hui. C'est à chacun dans son quotidien, pour nous, de réfléchir et d'améliorer sa façon de consommer, de vivre. Le deuxième axe, c'est fabriquer, expérimenter, imaginer des solutions ou des équipements qui vont permettre d'amoindrir l'empreinte qu'on va avoir. Pour donner un exemple concret, partant du constat qu'il y a énormément de mégots dans les rues de Douarnenez et sur la côte, on a imaginé d'équiper la ville en récolteurs de mégots, des cendriers installés sur l'espace public et pour équiper aussi les commerçants. Et donc de cette idée, on a organisé pendant un an des ateliers pour imaginer avec des volontaires, des habitants, le format, le cahier des charges. Et une fois que le modèle a été finalisé, nous sommes passés à des ateliers de fabrication et aussi d'initiation à l'utilisation des outils, apprendre à fabriquer avec la logique d'utiliser le plus qu'on peut des outils, du matériel de récupération, des matériaux de récupération. Et donc c'est des ateliers qui ont lieu en général le mercredi soir et mercredi après-midi. Et l'atelier qu'on propose aujourd'hui, c'est aussi sur cet axe-là. C'est un autre thème, c'est la réflexion autour de la fabrication d'un kit de pique-nique et de goûter avec le moins d'emballage plastique à usage unique possible. Et dans les activités, en fait, il y a un autre type d'activité à Istopia. C'est un travail avec les collectivités publiques pour amener des projets dans la ville sur les sujets qui nous importent, nous. Donc la réduction des déchets, par exemple, comme les mégots, ou des sujets plus larges de respect et de préservation de la nature localement. On opère un travail aussi avec d'autres associations locales pour réduire l'empreinte. Voilà. Donc c'est un travail plus de fond, d'éveil au sujet et d'apporter, de réfléchir ensemble à des solutions, nous d'apporter les idées et les ressources que l'on a. C'est les ateliers qu'on propose aussi le mercredi avec les bénévoles qui sont présents. Voilà, ils répondent aussi présents pour ces activités ou ces actions-là. Et une autre action que l'on a aussi, c'est au moins une fois par mois des ramassages de déchets sur les plages et les ports de Douarnenez.
On peut retrouver Istopia sur Internet, sur leur page Facebook, et soutenir l'association sur Hello Asso.
Pour le fixer, pour faire un prototype déjà de début.
C'est le modèle pour les pique-niques, quoi. Oui. Pour les pique-niques.
Oui. Donc il y aura toujours cette histoire-là, avec celui-là. Il y aura la double épaisseur.
Voilà, à l'instant, ce reportage signé Radio Évasion sur l'émission de sensibilisation à la protection du milieu marin d'Istopia, cette association localisée à Douarnenez, dans le Finistère. Et pour aller plus loin sur ce type d'action et encore mieux comprendre ces enjeux, nous recevons aujourd'hui Philippe Lenilio, directeur délégué adjoint, chef du service ingénierie au parc naturel marin d'Iroise, qui est relié à la direction régionale Bretagne de l'Office français de la biodiversité. Philippe Lenilio, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre dans ce reportage avec Istopia à Douarnenez, j'imagine que c'est une association que vous connaissez bien et avec qui vous collaborez peut-être sur certaines actions de sensibilisation à la biodiversité marine.
Oui, effectivement, c'est une association qui s'est engagée sur une charte qu'on proposait de partenaires, de guides nature partenaires. Et donc, on a effectivement des actions qui sont coordonnées avec Istopia, centrées sur la baie de Douarnenez, et mais aussi sur les aires marines éducatives qui sont un petit peu portées par cette association localement.
Alors du coup, quel regard vous portez sur leur action ? Est-ce qu'elle rentre du coup aussi en résonance avec ce que vous opérez au parc marin d'Iroise ?
Oui, bien sûr, ce sont des relais sur le terrain, ce sont des partenaires privilégiés pour nous, pour toucher un maximum de monde, et ce sont des relais qui permettent de diffuser des messages de médiation qui sont parfaitement coordonnés entre nous et l'association, et donc avec une stratégie qui est de toucher un maximum de monde sur des sujets qui sont pas faciles, relativement complexes, parfois sur le littoral et parfois même peu connus.
Alors on aura l'occasion dans un prochain magazine de Biodiversité en Air de présenter de façon plus longue le parc marin avec un portrait de vos activités. Mais déjà, est-ce qu'on peut présenter ou représenter en quelques mots ce qu'est le parc marin d'Iroise ?
Alors le parc naturel marin d'Iroise est un outil de protection de l'environnement marin. Parce qu'il y a une boîte à outils pour protéger l'environnement marin. Il y a une demi-douzaine d'outils, peu importe, dont les parcs naturels marins. C'est un dispositif qui fonctionne en réseau, parce qu'il y a, il y a 9 parcs naturels marins répartis sur toutes les côtes de France pour créer un réseau cohérent d'aires marines protégées. Alors cohérent, ça veut dire représentatif de la diversité des côtes de France. Alors on applique, on utilise cet outil dans les endroits qui sont à enjeu, des territoires à enjeu, où il y a des forts enjeux autour de la biodiversité. Et dans ce périmètre qui est défini dans un décret du Premier ministre, on désigne une plateforme de gouvernance collective qu'on appelle un conseil de gestion, qui est le dispositif très important de gouvernance de ce périmètre. Le conseil de gestion s'appuie sur des diagnostics d'une équipe technique pourvue par l'Office français de la biodiversité, et on fournit au conseil de gestion tous les éléments pour prendre des décisions en matière de connaissance de l'environnement marin, en matière de protection de l'environnement marin. Alors c'est très lié, parce que sans connaissance, on a du mal à savoir ce qu'on peut protéger, pour engager les usagers et les activités sur des bases durables. Alors ça, c'est aussi très lié, puisqu'il n'y a rien de véritablement durable s'il n'y a pas un minimum de protection.
Et justement, dans cet objectif de protection, il y a la sensibilisation. Et j'imagine que le parc naturel marin d'Iroise s'est engagé aussi dans des actions de sensibilisation. Est-ce qu'on peut en parler ? Quelles sont un peu les principales actions que vous pouvez mener tout au long d'une année ?
Alors, oui, bien sûr. Évidemment, notre conseil de gestion, en particulier son président Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère, l'ensemble du conseil de gestion est très attaché à ces aspects d'éducation à l'environnement et de sensibilisation, de médiation, on l'appelle un peu comme on veut. Cela dit, pour nous, ça fait partie de la protection. Désormais, il est parfaitement admis que cette sensibilisation, elle est connectée à la protection et qu'il faut engager le plus de monde possible grâce à la médiation, à la connaissance et au partage de connaissances sur l'environnement marin pour progresser en matière de protection. Notre programme, il est de fait établi pour toucher un maximum de public, les scolaires d'abord. On a un programme qui s'appelle les Petits Mousses de l'Iroise, qui touche quand même 1200 élèves dans à peu près une trentaine de groupes scolaires différents. Donc c'est relativement important comme dispositif, couplé avec les aires marines éducatives, qui sont des dispositifs portés au niveau national par l'Office français de la biodiversité. Ça s'adresse plutôt au public jeune, scolaire, ouais. Bien sûr, mais on cherche aussi à toucher le grand public au travers d'une série d'événementiels où on est présent. On fait des journées portes ouvertes, les journées du patrimoine, les fêtes maritimes, où on essaie de toucher un maximum de monde. Et puis, on a un programme de conférences pour compléter le dispositif et toucher un maximum de monde pour les sensibiliser à l'importance du milieu marin, à l'importance de la biodiversité marine.
Alors, il y a cette sensibilisation à destination du grand public, mais est-ce que vous travaillez aussi sur des actions de sensibilisation à destination des professionnels, notamment des usagers de la mer au quotidien?
Alors ça se faisait au quotidien dans notre conseil de gestion, et depuis très peu de temps, on développe des outils spécifiquement dédiés à la sensibilisation des marins, ouais. Des marins pêcheurs en particulier. Donc on a un programme qui s'appelle Sabre, qui vise en fait à expliquer et à partager nos connaissances dans les lycées maritimes, dans les lycées où sont formés les futurs marins pêcheurs. Donc on a des échanges dans ces lycées portait sur le fonctionnement fondamental du milieu marin, en l'occurrence sur le plancton. Donc on a des actions qui sont tout à fait novatrices de ce point de vue-là et qui donnent des résultats super intéressants, quoi, avec effectivement des communautés, des futurs marins pêcheurs qui découvrent finalement leur environnement de travail comme c'était pas forcément fait dans les années précédentes, enfin, il y a quelques années encore.
Justement, faire des actions de sensibilisation envers des professionnels ou des futurs professionnels, est-ce que c'est aussi facile à réaliser que pour du grand public ? Est-ce qu'il n'y a pas forcément des choses qui sont un petit peu ancrées dans les pratiques qui sont difficiles à changer ?
Ah, oui et non, dans le grand public, vous avez aussi des choses qui sont profondément ancrées, parce que le milieu marin est quand même un petit peu secret. On appelle ça l'effet de surface. Quand on regarde l'environnement marin, on voit sa surface, on pense qu'il est homogène, l'environnement marin, mais pas du tout. Il est extrêmement diversifié, et c'est un fonctionnement complexe de l'environnement naturel, qui sont des choses qui sont assez peu connu quand même, en tout cas fondamentalement, la mécanique du vivant sur l'environnement marin est quelque chose qui n'est pas tellement partagé, pas très intuitif non plus, puisqu'il faut raisonner en trois dimensions avec la masse d'eau, le fond, etc. Ce sont des choses qui changent un petit peu notre représentation de l'environnement naturel, puisqu'on a des références qui sont terrestres, et le milieu marin ne fonctionne pas comme le milieu terrestre.
Alors, il y a les actions que vous menez auprès du grand public, il y a les actions que vous menez aussi envers les professionnels, et puis il y a la question de la mobilisation aussi, en fait, de tous les relais du quotidien, puisque l'idée, c'est de transmettre, et que cette transmission permette de retransmettre encore derrière à d'autres publics, que ce soit les usagers de la mer, les riverains, les professionnels. Où en est-on aujourd'hui de ce réflexe un petit peu individuel et collectif allant dans le sens de la préservation des milieux marins ? Est-ce qu'on a fait beaucoup de progrès ces dernières années sur cette diffusion des enjeux ?
Moi, je trouve que ça progresse, et ça progresse notamment avec un réseau d'acteurs qui se mobilisent autour de la biodiversité marine. Alors, c'est pour ça qu'on a organisé, en tout cas conçu, une charte avec des guides partenaires, parce que nous seuls, nous n'arriverions pas à toucher l'ensemble des usagers. Et donc, on utilise des relais locaux, comme Istopia, comme d'autres. On a une soixantaine de structures qui sont engagées au travers des chartes de partenariat pour faciliter le transfert d'informations, partager des informations. Donc on partage avec les signataires de cette charte nos informations de manière privilégiée pour que eux les relaient sur le terrain. Mais clairement, on a besoin de relais sur le terrain et un maximum de collaboration avec des partenaires locaux. Parmi les relais de sensibilisation vers un public le plus large possible, ce qu'on fait aujourd'hui en fait partie. On a besoin de l'appui de médias comme le vôtre pour toucher un maximum de public et expliquer comment est-ce qu'on peut envisager la sensibilisation et donc la protection de la biodiversité marine.
Ces relais sont-ils aujourd'hui suffisants ? Enfin, voilà, est-ce que la mobilisation est suffisante ou est-ce qu'il y a encore de gros efforts à faire réellement pour mobiliser plus de monde à ces enjeux ?
Je dirais que c'est un parcours, en fait, un chemin qu'on parcourt. Je pense que les parcs naturels marins et cette façon de voir les choses est relativement récente. Les premiers parcs naturels marins ont été créés dans les années 2007. Ils ont été opérationnels en 2010. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et donc, on voit le progrès, on voit le chemin parcouru. Dire qu'il est suffisant, je pense qu'on a encore une marge de progression, clairement. Cela dit, le chemin parcouru est déjà très, très encourageant.
L'idée, c'est de faire converger en fait les différents usages, que tout le monde ait réellement la même vision sur les choses.
Oui, et puis comprendre que énormément d'usages et d'activités sont dépendantes de la qualité de l'environnement. Le pêcheur, il utilise une ressource que l'environnement naturel produit. Toute action qui contribue à la protection de cet environnement naturel contribue d'une certaine manière à la durabilité et à la poursuite du métier de pêcheur qui utilise des ressources qui se renouvellent. Et pour qu'elles se renouvellent, il faut que l'environnement reste en l'état. Et ça, c'est vrai pour beaucoup d'usages. Énormément d'activités nautiques, par exemple, utilisent l'environnement marin et l'utilisent d'autant mieux qu'il est préservé et en bon état.
Aujourd'hui, on comprend qu'il y a des progrès qui ont été réalisés, mais on est toujours dans une situation d'urgence, justement, par rapport à cette préservation du milieu marin. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur un territoire comme le nôtre, Iroise ou la Bretagne entière ?
Alors, nous sommes une des premières régions maritimes de France métropolitaine, hein, clairement, avec trois façades maritimes très différentes, très complémentaires aussi. Donc on a énormément de ressources, de patrimoine. La région Bretagne est quand même au premier rang, hein, des régions avec quelques secteurs méditerranéens et l'île de Corse, par exemple, hein, qui sont vraiment des endroits très privilégiés du point de vue de la biodiversité marine. Donc c'est normal qu'on soit un petit peu en avance, qu'on ait des parcs naturels marins, plein d'outils pour protéger le milieu marin, des réserves naturelles, la réserve naturelle des Sept-Îles, oui, qui vient d'être étendue, plein de sites Natura 2000, pratiquement sur 40% des eaux bretonnes. Donc c'est un vrai engagement, une vraie prise en compte de l'environnement naturel, de sa biodiversité et de son intérêt. Est-ce qu'on est dans une situation optimum et non urgente ? On a un problème, c'est qu'on voit respirer l'environnement naturel de manière beaucoup plus rapide désormais, sous la pression des changements globaux. Il n'y a pas que le changement climatique en particulier, hein, qui joue énormément. Et cette respiration qu'on voit de plus en plus ample, on a du mal à savoir, à déterminer si c'est la respiration naturelle du système ou si c'est la résultante d'une pression. Donc c'est ça sur quoi on travaille aujourd'hui. Et on voit quand même un certain nombre de pressions, en particulier liées à la température de l'eau, qui ont des effets sur la biodiversité marine. On voit aussi des peuplements qui changent. On voit des choses qui bougent avec des espèces qui bougent, qui se rapprochent de nos côtes. C'est plutôt bon signe, mais si on prend un peu de recul, est-ce que c'est parce que dans d'autres endroits, elles n'ont plus de ressources pour se nourrir et qu'elles se rapprochent vers les endroits où il en reste encore. Tout ça, on essaie de le décrypter, mais on voit des choses bouger de plus en plus rapidement. Et c'est ça qui nous inquiète le plus aujourd'hui.
Les causes, vous en parliez, le réchauffement climatique, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a d'autres causes, notamment les pollutions terrestres ?
Oui, la dégradation de l'environnement marin. Ça, en plus de sa transformation avec le changement climatique, ça a des effets qui sont quand même relativement importants. Et le milieu marin a été modifié pendant pas mal de temps, hein. Donc on a une situation qui est que l'environnement marin est globalement quand même sous pression, avec notamment des usages des bassins versants qui ont de très grosses influences, hein, sur les capacités du milieu marin à produire du vivant, à produire des ressources importantes pour les pêcheurs. Donc on a quelque chose qui est transformé et qu'on doit reconquérir, hein, dans plein d'endroits.
La Bretagne en avance sur justement cette mobilisation, cette sensibilisation aussi aux enjeux maritimes, enfin en tout cas du milieu marin. Pour autant, est-ce que vous avez connaissance peut-être aujourd'hui en Bretagne et ailleurs d'autres actions de sensibilisation ou de mobilisation emblématique dans d'autres parcs marins, peut-être en France également, quoi.
Oui, globalement quand même, il y a des choses qui se font dans des contextes qui sont différents. La sensibilisation du milieu marin, elle s'appréhende pas de la même façon en zone corallienne, par exemple, plutôt plus accessible directement que dans l'Atlantique Nord-Est, dans les mers tempérées froides comme les nôtres, où c'est plus quand même compliqué d'y accéder. Il faut maîtriser des techniques, et des fois ça suffit pas pour aller explorer le milieu marin. Donc on utilise les outils à disposition et on s'adapte à notre environnement qui est quelquefois pas facile d'accès. Par exemple, il se passe des choses en hiver qui sont tout à fait intéressantes sur le milieu marin, sauf que notre milieu marin en hiver n'est pas accessible. Donc c'est quelque chose qu'on doit inventer. Donc on utilise les réalités virtuelles, la réalité augmentée. On utilise aussi les outils qui sont à disposition en Bretagne, avec notamment le Centre Océanopolis, par exemple, hein, qui a des expositions qui permettent de collaborer pour faire accéder à un public extrêmement large, hein, au milieu marin et à ses secrets et à son besoin de protection.
Vous parlez de nouvelles technologies. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être un outil dans le futur aussi pour comprendre mieux certaines choses, pour modéliser certains...
Alors, là, vous dépassez un petit peu mes compétences, ouais, techniques. En revanche, on utilise les compétences qu'il y a dans certains laboratoires. Par exemple, Brestois, il y a le Centre d'études réalité virtuelle avec qui on travaille et on collabore sur comment montrer l'invisible. Et on a utilisé des outils de réalité virtuelle qui sont absolument efficaces et renversants, qui permettent à plein de gens de partager des choses choses qui sont extrêmement peu accessibles par ailleurs.
D'être en immersion.
Oui, notre dernière action, c'est par exemple de faire visiter un phare qui est en mer, qui est inaccessible, et qu'on a reconstitué en réalité virtuelle, à partir de photos et de scans, etc. On l'a fait aussi sur des sites archéologiques sous-marins, donc on a pas mal de possibilités de montrer des choses qui sont efficacement cachées par la surface de l'eau.
Alors, pour que nos auditeurs prennent, au-delà de cet entretien, peut-être toute la mesure des enjeux, et peut-être aussi envie de se mobiliser eux-mêmes ou de transmettre eux-mêmes ces enjeux, est-ce que vous auriez peut-être des sites ou des ouvrages de référence qui seraient intéressants pour qu'ils puissent creuser, au-delà de cet entretien, les choses ?
Là, il y en a plein. Je pense qu'il faut que le public s'empare de ce qui l'intéresse. Je pourrais conseiller des choses à dominante scientifique, mais ça ne correspond pas forcément à tous les besoins. J'encourage les gens à s'intéresser à ces sujets. Il y a plein de façons d'aborder le sujet de la biodiversité. On n'est pas obligé d'être savant. Hein. On peut avoir une approche sensitive ou de ressenti par rapport à ça. On n'est pas obligé de nommer toutes les espèces. Donc, il y a plein de façons d'aborder la biodiversité. Là, je laisse le public choisir ce qui lui correspond le mieux. Et il y a plein de façons de le faire.
Il y a notamment votre site internet au Parc Marin. Par exemple, c'est une bonne entrée.
Par exemple, mais on fait aussi des animations pédagogiques, on fait des conférences grand public avec plein de façons d'aborder ces sujets, pas que scientifiques et pas que savantes.
Philippe Leniot, merci beaucoup.
Merci à vous pour cette invitation.
Je rappelle que vous êtes directeur délégué adjoint, chef du service ingénierie au Parc naturel marin d'Iroise, relié à la direction régionale Bretagne de l'Office français de la biodiversité. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les ondes de vos radios associatives locales en Bretagne et sur Radio Boa, leur émanation régionale. Également au podcast sur le site internet corlab.org, rubrique podcast, émission biodiversité en air. À bientôt pour un nouveau numéro de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.